Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Naître et grandir dans une langue maternelle, le russe, vivre, étudier adolescente dans une deuxième langue, l'anglais, et enfin devenir écrivaine dans une troisième langue, le français. Voilà le parcours atypique de notre invitée aujourd'hui. Une auteure qui, après un premier roman très remarqué et doublement récompensé par le Grand Prix des Enquêteurs et le Prix littéraire de la Renaissance française 2020, vient de publier son deuxième livre qui paraît sous le titre « Les deux morts » de Charity Quinn aux éditions Robert Laffont dans la collection « La bête noire ». Bonjour Katerina Hauté.
Bonjour.
Ce n'est pas courant, comme je le disais, de devenir écrivain dans une autre langue que celle de son pays natal. Il faut dire que vous vivez et travaillez en effet depuis une vingtaine d'années en France, après des études aux États-Unis. Sans oublier, je crois, un retour à Moscou entre les deux qui n'a pas été très probant, visiblement. Et je ne peux pas ne pas vous demander, malheureusement, pour commencer cet entretien, comment vous vivez la situation géopolitique aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine attaquée par la Russie. Quels sont vos sentiments sur cette tragédie, Katerina Hauté?
Merci beaucoup pour votre question. C'est, comme vous dites, une tragédie. Et le 24 février, j'étais sous le choc total, en état de sidération. J'ai passé 2 semaines comme un poisson rouge dans son bocal qui se cogne contre la vitre, sur les sites d'infos, en relisant, en n'arrivant pas à croire que ça arrive réellement. C'est une tragédie humanitaire, c'est une tragédie pour le peuple ukrainien, bien sûr, c'est aussi une tragédie pour une certaine partie du peuple russe qui s'oppose à la guerre. Très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de rester comme ça, les bras croisés. Donc, j'ai commencé à m'engager dans les associations, d'abord avec les collectes de vêtements. Puis après, je suis allée traduire à la porte de Versailles, où on accueille les réfugiés. Ensuite, on a accueilli une jeune fille ukrainienne chez nous. Donc, elle est passée un mois et demi dans notre appartement parisien. Elle est repartie récemment. Donc, finalement, je me suis dit... La seule façon de gérer ça, c'est de rester actif, c'est d'essayer d'aider à la mesure de mes moyens qui restent, ceux d'en particulier, mais voilà.
Donc, Katerina Hauté, clairement, vous affichez votre position contre la guerre, accueillant même, donc je l'entends avec vous, une Ukrainienne à votre domicile, vous qui êtes d'origine russe. Est-ce que vous avez d'ailleurs encore de la famille en Russie?
Non, je n'avais plus de famille en Russie.
Donc, vous n'avez pas de menace qui pourrait en effet mettre en danger une partie des vôtres restés sur place?
Non, effectivement. Ma mère habite en France, mon père aux États-Unis, donc je n'ai pas de lien là-bas maintenant.
C'est sans doute une chance de ne pas se sentir menacée dans sa liberté d'expression, parce que j'imagine que vous connaissez d'autres Russes aujourd'hui en exil en France qui n'ont pas, eux, la possibilité de dire tout haut ce qu'ils pensent de cette guerre?
Tout à fait. Je connais un certain nombre de personnes qui n'osent pas en parler, parce qu'ils ont peur de représailles, parce qu'ils se disent qu'ils aimeraient bien un jour rentrer voir leurs parents, leurs grands-parents, et ils ne veulent pas exposer leur famille.
Est-ce que pour autant, Katerina Hauté, ici en France, ou autour de vous, vous sentez une forme de russophobie?
Non, mais j'en avais très peur, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer, c'est un peu comme être allemand après la guerre. Et c'est tout à fait ça. C'est ce sentiment d'être responsable de ce qui se passe, et ce sentiment d'être associé à des actions militaires qu'on ne cautionne absolument pas. Donc j'avais effectivement peur de rencontrer de nouvelles personnes, de réactions que je pourrais avoir. Et non, il n'y a pas... Je pense que les Français sont quand même formidables dans le sens où ils accueillent et ils font la part des choses.
Et j'imagine en plus que votre cœur doit être déchiré, parce qu'à la fois on lit qu'en Russie, il y a une très forte censure des lois pour fermer les médias des pays désignés comme inamicaux. Aussi de suspendre les médias russes, qui seraient susceptibles de diffuser des informations jugées mensongères. Donc ça, c'est quand même très inquiétant de voir à quel point la liberté d'expression régresse en Russie, où à l'époque, j'imagine, quand vous y êtes né, vous avez grandi, ce n'était pas si grave.
Alors moi, je suis encore née en Union soviétique, donc on n'avait pas beaucoup de liberté de presse non plus. Mais effectivement, ces dernières années, enfin ces dernières décennies d'ailleurs, la Russie s'est ouverte, il y avait une presse indépendante qui est disparue.
Et de la même façon, à Kiev, en Ukraine, il y a des nouvelles lois sur la dérussification qui d'ailleurs divisent énormément, par exemple, en culture et en littérature, les libraires et les amateurs de livres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est tout à fait compréhensible. C'est un peuple qui est très éprouvé et qui vit sous les bombes, sous les menaces. Après, il ne faut pas oublier qu'une partie de la population ukrainienne est russophone, ethniquement, et peut aussi se considérer impactée par ces choix.
Pour finir sur ce sujet, Katerina Hauté, vous êtes inquiète ?
Oui, j'ai peur malheureusement que la situation ne s'arrange pas. J'ai peur qu'on soit parti pour une guerre longue qui va coûter beaucoup de vies et qui va aussi causer des dommages très importants au niveau des économies européennes et aussi des pays émergents.
D'autant plus que vous travaillez dans la finance, n'est-ce pas ?
Alors, je travaille dans une organisation internationale qui s'occupe du développement, effectivement.
Donc, vous avez une expertise aussi dans ce domaine. Revenons à la littérature maintenant, Katerina Hauté, avec ce deuxième roman que vous publiez, Loin de la Russie.
Oui.
Il se déroule aux États-Unis, comme le précédent d'ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est un pays où vous avez vécu. Mais je me demandais, dans la mesure où vous avez écrit, me semble-t-il, en France, qu'est-ce qui vous a donné envie de situer vos livres outre-Atlantique ?
Alors, c'est la deux mesures de ce pays. Les États-Unis, c'est le côté paradoxal, c'est les injustices aussi qu'on rencontre. Et les États-Unis ont aussi beaucoup été sur le devant de la scène ces derniers temps, et pas pour des bonnes raisons. Oui, c'est un pays qui fascine et c'est un pays qui permet de placer une action pour qu'il ait plus de résonance, qui permet d'aborder des thèmes
qui vous intéressaient.
Voilà.
Est-ce que c'était aussi peut-être inconsciemment par peur de vous revendiquer immédiatement comme auteur de langue française ?
C'est une bonne question. Je ne me sentais pas très légitime d'écrire en français, c'est clair. C'est une langue pourtant dans laquelle je vis, je pense, je rêve depuis des décennies maintenant. Mais c'est une chose de vivre au quotidien et c'est une autre de se lancer dans une écriture. Et c'était peut-être aussi une petite revanche de ma part sur moi-même. Quand je parle, j'ai un accent, mais quand j'écris, ça ne s'entend pas. Donc
c'est vrai.
Je peux aborder les sujets que je veux.
Donc c'est une façon peut-être aussi de contourner, placer un roman aux États-Unis quand on s'appelle Katerina Hauté, qui vraiment est un nom qui n'envisage pas de nationalité en particulier immédiatement. Et puis le roman policier qui est un genre populaire sur lequel on ne s'arrête pas forcément, qu'on lit sans savoir forcément qui est l'auteur.
Tout à fait, ouais. Les gens font beaucoup plus attention au titre et à la couverture qu'au nom de l'auteur finalement.
Et pourquoi le roman policier en ce qui vous concerne ? Parce que vous êtes lectrice tout simplement ?
Parce que j'aime lire des romans policiers d'abord. Ce n'est pas le seul genre que je lis, mais c'est un genre qui me détend, qui permet aussi d'aborder des questions de société, des questions finalement très graves sous une forme plus légère, plus facile d'utilisation en quelque sorte. Et petite, j'étais fascinée par l'œuvre d'Edgar Allan Poe, qui était le premier à écrire des romans policiers, finalement, au XIXe siècle. Donc mon premier roman, La chute de la Maison White, fait pas mal de clins d'œil, à commencer par le titre, à l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Voilà, et donc j'ai continué dans cette voie.
Nous allons reparler de cette influence littéraire, nous allons reparler des deux morts de Charity Queen dans un instant, et puis aussi surtout de votre choix de vous installer en France, de la culture et de la langue française. Le temps d'une pause musicale, sachant, Katerina Hauté, que dans votre roman, même si en effet les références littéraires sont très nombreuses, puisqu'il sera question de Shakespeare dans un instant et du roi Lear, je n'ai trouvé que deux allusions musicales. L'une qui m'a beaucoup fait rire à Julio Iglesias, que le médecin légiste dans votre roman écoute en boucle, et puis une autre à la chanson Lady in Red de Chris de Burgh. Est-ce que l'un de ces deux titres, ou voire une autre chanson, Parce que vous avez le choix, vous pouvez aussi choisir une chanson que vous aimez, Katerina Othé, qui n'est pas forcément en lien avec le roman et vos citations.
Alors dans ce cas-là, ce serait Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses.
Très bien, alors on écoute ça. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Katerina Othé qui vient de publier Les deux morts de Charity Queen aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Un roman policier qui se déroule à Washington où une avocate très célèbre est victime d'un accident terrible puisqu'un grand miroir mural dans sa chambre lui tombe dessus, la blessant très grièvement. Elle est défigurée à l'hôpital et elle ne dit pas un mot, laissant donc les deux enquêteurs, Ethan et Elena, très désemparés pour trouver le coupable. Alors c'est une intrigue qui, au-delà du fait divers, dresse un portrait très mordant de la société américaine avec, entre les lignes, quelques allusions bien senties au dysfonctionnement comme la haine entre classes sociales, la question de l'accès aux soins médicaux pour tous, le culte de l'argent, le scandale de Bernard Madoff qui a ruiné de très nombreux petits épargnants, le fondamentalisme religieux, autant de sujets qui d'ailleurs résonnent avec une actualité récente et inquiétante aux États-Unis qui ces derniers jours remettent en cause le droit des femmes pour l'avortement, pénalise à nouveau l'homosexualité dans certains États, sans oublier le recul en matière de mesures écologique. Est-ce que vous imaginiez, Katerina Othé, en écrivant ce roman, que ce rêve américain que vous avez vécu, qui nous a tous portés aussi ici en Europe, était en train de tourner au cauchemar ?
Non, pas du tout. Et je pense effectivement que ce rêve n'est plus, malheureusement. C'est un beau pays et c'est un grand pays, mais ces derniers temps, je suis très inquiète des changements intervenus au niveau législatif, mais au niveau aussi de l'opinion, surtout dans les États du centre des États-Unis.
Oui, parce que vous avez vécu au Texas, c'est cela ?
Moi, j'ai vécu au Texas, tout à fait.
Et dans quelles circonstances ?
En fait, mon père était scientifique, physicien, et il avait travaillé sur un projet de recherche.
Et en revanche, là, vous avez choisi la ville de Washington. Pourquoi ?
Alors, c'est une ville qui est fortement marquée par le contraste social. Et contrairement à d'autres grandes villes américaines qui se gentrifient peu à peu, comme Brooklyn, par exemple, à Washington, il y a encore cette division très très forte entre les quartiers Est et Ouest. Et cette lettre dans votre code postal, le I pour Est ou le O pour Ouest, vous définit socialement. C'est vraiment le genre de lieu où on traverse la rue et ce n'est plus la même ville.
Donc ça, vous l'avez compris en vivant sur place. Vous l'avez ressenti, vous ?
Alors, pour les petites anecdotes, la première fois qu'on est arrivé à Washington, il y a quelques années, j'avais réservé une maison sur Airbnb, une belle maison à 600 mètres du Capitole, et j'étais assez contente de moi. Et puis on partait de New York, et le soir, la veille du départ, je discute avec des amis américains, et donc je leur explique où on va loger. Et là, la personne me dit « Tu peux changer encore ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Et en fait, en arrivant, j'ai compris pourquoi. Effectivement, j'étais du mauvais côté de la rue.
Ça veut dire quoi, du mauvais côté ? Du côté des gens qui n'ont pas d'argent ?
Il y a une criminalité très forte. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres.
À cause de l'insécurité ?
On ne se mentit pas, voilà. Il y a des vrais problèmes de sécurité dans cette partie de la ville. À tel point, d'ailleurs, qu'un jour, on était assez loin, on se baladait à pied, puis on a voulu prendre un taxi pour rentrer. Et en fait, le chauffeur a refusé de nous conduire en disant « moi, je ne vais pas là ».
Ce qui est très intéressant, Katharina Hauté, c'est ce que vous transmettez à votre personnage Ethan, qui vient de ces quartiers-là,
ouais,
qui en a un peu honte et qui devient policier, mais qui cache ses origines. Nous allons en reparler dans un instant. Même si votre roman n'est pas un roman sur le métier d'avocat proprement parlé, en revanche, à travers, donc, on l'a dit, cette victime qui est une avocate célèbre, vous décrivez ce système qui, si on sait bien s'en servir, permet d'échapper aux condamnations de la justice, avec deux exemples frappants que vous citez. Le procès d'O.J. Simpson, qui, comme on se le rappelle sans doute et contre toute attente, n'a pas été condamné au meurtre de sa femme. Et vous citez aussi une autre affaire, celle d'un accident de métro en 2009 à Washington, justement, qui a fait de nombreuses victimes et dont personne ni aucune institution n'a été reconnue coupable. Elle vous fascine, la justice américaine et ses ambiguïtés, Katharina Hauté ?
Alors oui, elle est effectivement fascinante par sa démesure, par sa façon aussi de dévoyer la loi. Et l'un des thèmes centraux du roman, c'est effectivement droit contre la justice. Qu'est-ce qu'il importe ?
Alors, l'affaire O.J. Simpson, elle a été médiatisée dans le monde entier. On se souvient, voilà, de cette histoire du sportif américain, très célèbre, accusé d'avoir tué sa femme et qui, grâce à une armada d'avocats, a recouvré la liberté. En revanche, cette affaire du métro en 2009 de Washington, ça, c'est une affaire moins médiatique, en tout cas en dehors des États-Unis. Mais vous la citez dans vos notes post-roman, oui, comme si vraiment c'était une affaire qui vous avait marqué personnellement. Pourquoi ?
Donc l'affaire du métro de Washington, effectivement, est assez intéressante dans le sens où elle illustre le fonctionnement de la justice américaine, autant que l'affaire O.J. Simpson, mais à une autre échelle. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aux États-Unis, les indemnisations des victimes sont très, très importantes. Et pour peu qu'on arrive à identifier la responsabilité d'une entité ou d'une personne qui a les moyens de payer cette indemnisation, ça peut aller très, très loin. Donc voilà, Charity Queen est une avocate pénaliste qui défend des criminels en col blanc. Et sa vocation naît le jour où elle apprend en direct, comme des millions d'Américains, les rouages de l'affaire Simpson, la Dream Team qui avait défendu O.J. Simpson, et qu'elle apprend aussi combien d'argent les avocats ont touché.
En tout cas, c'est aussi de votre vie américaine, de votre expérience, de vos observations que vous nourrissez vos romans, Katharina Hauté.
Oui, c'est un pays que je connais bien parce que j'ai plusieurs amis là-bas et on y retournait souvent avant le Covid. C'est un pays qui se prête bien au roman, je trouve.
Alors revenons à cette intrigue dont on ne peut pas dire grand-chose, évidemment, parce que sinon ce serait déflorer le plaisir des lectrices et des lecteurs. Si ce n'est que cette intrigue s'inscrit dans l'œuvre de Shakespeare, puisque la victime et l'un des suspects potentiels sont de grands amateurs, admirateurs du dramaturge britannique et en particulier de sa pièce Le Roi Lear, dont ici des citations servent de fil conducteur à l'enquête. Pourquoi ces références très littéraires, sachant que, en effet, vous le disiez tout à l'heure, Catherine Auté, votre premier roman était déjà un hommage à Edgar Allan Poe?
J'aime beaucoup les cultures anglo-saxonnes. Et alors, ça fait prétentieux de le dire, mais j'aime beaucoup Shakespeare. Et Le Roi Lear, qui n'est pas très connu en France, est une pièce sur la famille, mais c'est aussi une pièce sur la justice. Et en tant que telle, elle connaît assez bien l'idée du roman que j'avais en tête.
Avec ici Le Roi Lear qui pourrait être Charity, oui. Et les trois filles du Roi Lear, les deux qu'elle a eues, plus une troisième qu'elle a adoptée d'une certaine façon, ou en tout cas dont elle est la marraine. Donc vous avez restitué, reconstitué la tragédie de Shakespeare.
Alors, en partie seulement, parce que c'est aussi un tout petit peu un piège.
Alors justement, piège est un bon mot parce que, bien entendu, c'est un roman policier digne de ce nom qui a des rebondissements et qui nous entraîne sur des chemins auxquels on ne s'attendait pas. Et je me demandais, en effet, Catherine Auté, si depuis Agatha Christie, on va dire, c'était devenu un défi pour tous les auteurs de romans policiers, justement de réinventer des intrigues suffisamment surprenantes pour le lectorat.
Oui, effectivement, c'est un challenge assez important. La littérature policière est le genre le plus populaire en France et ailleurs, mais aussi le plus exigeant, finalement. Et il faut sans cesse renouveler. Les lecteurs sont extrêmement fin, ils saisissent très bien les allusions. On ne peut plus se contenter d'une intrigue basique. Il faut effectivement essayer de surprendre le lecteur.
Donc pour vous, ça a été un casse-tête ?
Pour moi, ça a été un travail de réflexion et de préparation assez important, oui.
Comme un puzzle à mettre en place ?
Oui, tout à fait, mais c'est exactement ça.
Alors parlons de Ethan, ce jeune policier qui est le héros principal avec sa jeune consœur Elena. Je m'arrête sur lui parce qu'il ne correspond pas au stéréotype du flic blasé, cabossé, ni à l'inverse au jeune idéaliste, intègre. Il est plutôt entre les deux, avec ce qu'on disait tout à l'heure, une espèce de honte de ses origines sociales qu'il cache. Et il a une particularité qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est quand même un joli cœur. Il a trois relations amoureuses dans la même enquête. C'est pas courant, ça, Catherine Auté.
Non, c'est vrai. Mais j'étais un peu fatiguée du cliché du flic blasé, qui boit trop, qui fume trop, voilà, qui s'énerve sur ses suspects. Moi, mon personnage est jeune, très jeune même, avec les défauts et les qualités de la jeunesse, on va dire.
Et vous n'avez pas envie de mettre en place une femme policière ?
Non, pas cette fois-ci, mais j'ai réfléchi pour un prochain roman.
Parce que Elena, vous auriez pu en faire en effet l'héroïne, mais elle reste plutôt à côté de Ethan. Ethan, c'est vraiment lui le héros.
C'est lui le héros. Et comme vous dites si bien, c'est un jeune homme qui est assez confiant en lui globalement, mais qui a honte et qui a peur de dévoiler son
bonheur.
Voilà.
Toujours dans le même registre des stéréotypes que vous détournez, votre avocate très célèbre, très riche, très cultivée, elle lit en douce des romans à l'eau de rose. C'était un clin d'œil de votre part, ça, Catherine Auté, à la littérature populaire?
Alors, Charity Quinn est une femme qui a réussi professionnellement. C'est une femme qui est très dure, qui sait ce qu'elle veut, qui mène sa maisonnée d'une main de maître. C'est aussi une femme très malheureuse qui a besoin d'évasion que lui procurent ses livres. Donc elle les achète avec des lunettes noires sur le nez en payant en liquide pour qu'on ne remonte pas vers elle grâce à sa carte bleue et les brûle dans la cheminée après les avoir lus.
C'est un jeu que vous aviez envie de partager avec le lecteur sur la question de la littérature populaire qu'on méprise officiellement et finalement dont on est tous très amateur.
Je pense qu'on en a tous besoin. On a besoin de plusieurs types de littérature, des livres sérieux et des livres moins sérieux. Des fois, on a juste besoin d'un moment de plaisir, d'un moment de calme, d'un moment d'évasion. Voilà. Et donc, c'est ce que ces livres offrent à Charity.
Donc, pas de jugement de valeur pour la littérature?
Non. Mais le roman policier en lui-même est une littérature populaire, donc je ne me permettrai pas de jugement.
Elle tient un journal intime. Et vous, oui. Katharina Hauté?
Non. Mais elle tient un journal intime parce que c'est une femme qui est très, très seule. Finalement, elle a une famille, elle a des relations professionnelles. Mais ce n'est pas une femme qui a des amis, ce n'est pas une femme qui a des proches, qui ne peut pas se confier. Donc finalement, après avoir essayé la religion, après avoir essayé les différentes façons d'aborder sa solitude, elle ne trouve que ça, le journal intime, pour se confier et pour comprendre ce qui lui arrive.
Et vous, l'écriture, ça a été aussi une façon de vous confier et de comprendre, Katharina Hauté?
Alors pour moi, l'écriture a été un catharsis à l'origine. J'ai commencé à écrire quand j'ai perdu un bébé il y a quelques années. Et donc ça m'a permis de sortir de ma tête, de ma vie, d'être quelqu'un d'autre, hein, une personne qui écrit.
Et donc écrire directement en français, ce n'est pas anodin, comme je le disais au début de cette émission. J'imagine que vous avez un goût pour la littérature française qui vous a été inculqué quand vous étiez plus jeune. D'où ça vient ?
Alors, tout à fait. En grandissant en Russie, j'étais passionnée de littérature française, des grands classiques, surtout Stendhal, Balzac, mais aussi des romans policiers comme ceux de Sébastien Jeprisot ou Boileau et Narcisse Jacques.
Des grands classiques, en
voilà, effet. Vraiment des grands classiques. Je les lisais en boucle.
Et puis, en français ?
Non, en russe.
D'accord.
Voilà. Et puis les Dumas, les Trois Mousquetaires. Enfin, voilà, tous les... Et ensuite, quand je commencé à écrire. Le français est venu assez naturellement. C'est une langue dans laquelle je vis. Mais en même temps, il y a une petite distance. C'est une langue qui n'est quand même pas ma langue maternelle. Et je pense que cette distance me permet de le ressentir plus, d'être plus consciente de la tournure des phrases, de la façon de transmettre un message, de la façon d'accrocher aussi le lecteur. C'est une distance qui permet une mise en valeur, en quelque sorte, de la langue. Et je suis passionnée par la langue. Je trouve que le français est très beau, un peu illogique, très ancien, mais c'est ça qui fait tout son charme, en fait.
Illogique ?
Quelquefois, oui, dans l'orthographe.
Oui, il y a toujours des choses surprenantes. Donc, c'est une langue que vous avez apprise en France ou déjà que vous avez commencé d'étudier en Russie ?
Alors, je fais quelques mois de français en Russie, mais je l'ai appris essentiellement en France en arrivant.
Un personnage de votre roman dit « On n'échappe pas à son enfance ». Et vous, Katharina Hauté, à quoi n'avez-vous pas échappé ?
À l'amour de la littérature, à la croyance aussi que les livres sauveront le monde.
Les livres sauveront le monde.
Ouais.
Et quelle langue transmettez-vous à vos enfants ?
Moi, je leur parle en russe, leur père leur parle en français, donc ils sont bilingues.
Et je reviens donc sur cette belle phrase, les livres sauveront le monde. Merci beaucoup, Katharina Hauté, d'être venue dans cette émission nous parler de littérature, mais aussi de sujets plus graves, mais qui sont importants aujourd'hui dans l'actualité, que ce soit à l'ouest ou à l'est, hélas. Et je rappelle le titre de ce nouveau roman, Les deux morts de Charity Queen, un roman policier qui a paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Merci encore.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.